Marseille Hip Hop 2014, état des lieux.
Samedi 1er et dimanche 2 mars,
un week-end hip hop sur les 3-8.
Plus d'infos sur le www.radiogrenouille.com. Bonjour, vous êtes bien sur les 3-8 pour le week-end Hip Hop État des lieux. Pendant l'heure qui suit, on vous propose d'écouter un plateau radio et une discussion autour de la diffusion du hip-hop en France, enregistrée à la Renaissance de La Franchie, la salle emblématique du hip-hop à Marseille. Avec Miloud Arabtani, son directeur, Julien Valnay, auteur de M.A.R.S. et Rania Harar de Call 911 à Lille.
Salut à tous, bienvenue en direct sur le 88.8, pile à l'heure ou presque, hein, Sébastien, c'est ça?
Ouais.
C'est bien, c'est bien. C'est Stéphane au micro pour vous accompagner pendant ce direct, donc mini scène embarquée du côté de La Franchie. Vous entendez peut-être derrière ma voix, ça balance. La projection du film Smells Like Hip Hop n'a pas encore commencé, elle va débuter tout à l'heure, elle sera suivie d'un débat avec le réalisateur, Monsieur Roquette, Solo d'Assassin et pas mal d'autres intervenants. On a choisi donc de commencer quand même à l'heure et d'ouvrir ce direct avec le maître de séance, Miloud Arabtani, directeur de La Franchie. Salut Miloud.
Salut, bienvenue à toutes et à tous.
Merci de nous accueillir pour cette émission en public et en direct pour la Renaissance de La Franchie. Je crois que ça s'est plutôt pas mal passé depuis vendredi soir.
Oui, d'abord on est très heureux d'accueillir les 3-8 chez nous, ça fait toujours plaisir. La dernière fois c'était à l'occasion d'un beau plateau, je me souviens, passe le mic. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux depuis donc vendredi soir avec le public qui répond à cette réouverture. Donc on est très content.
Également présent avec moi sur le plateau façon mini salon et au micro, Rania Harar de Call 911, association lilloise qui organise notamment le festival Hip Hop Day. Salut Rania.
Salut Stéphane.
Bienvenue au micro. Et Julien Valnay, salut Julien.
Salut Stéphane.
Auteur de M.A.R.S. Histoire et légende du hip-hop marseillais, un bouquin dont on vous a déjà pas mal parlé, sorti aux éditions Wild Project, et qui est là avec nous pour nous accompagner. Notamment, on t'a convié pour participer au petit échange qui fera suite à la diffusion du film Smells Like Hip Hop tout à l'heure, et peut-être pour apporter ta perspective un peu historique sur la scène marseillaise.
On va essayer, ouais.
Et alors, une histoire du hip-hop à Marseille dans laquelle La Franchie a joué un rôle clé depuis déjà pas mal de temps, depuis le début en fait. Hein. Aujourd'hui, La Franchie, Miloud, après 2 ans de fermeture, par rapport au hip-hop, c'est quoi votre intention? C'est de, d'après ce qu'on voit sur la programmation de ce week-end, qui tourne quand même vraiment autour de cette esthétique-là, c'est de réaffirmer la position de place forte de cette culture musicale à Marseille.
Bah c'est le projet fondamental de La Franchie, le projet artistique d'ensemble, c'est les musiques urbaines et notamment le hip-hop. Après, si on veut affiner, on a beaucoup défendu le rap français et là on va essayer de couvrir un champ un peu plus large que le simple rap en essayant de taper autour de tout ce qui tourne autour des musiques urbaines.
C'est quelque chose qui était déjà présent avant, c'est quelque chose, tu veux dire, que vous avez l'intention d'affirmer, de développer un petit peu plus?
Oui, c'est-à-dire que La Franchie, quand on a ouvert en 96, tout de suite on a eu une notoriété nationale parce qu'on était quasiment le seul lieu, entre guillemets, institutionnel à afficher la volonté de faire une programmation rap. Début des années 90, hein, c'est, on va dire, l'effervescence de l'école marseillaise, hein, et on était présent à ce moment-là. Et au fil des années, on a eu une expertise sur le rap, et là on souhaite ouvrir le champ des musiques urbaines au-delà du simple rap français.
Parce que c'est quoi? Tu penses qu'il y a des ponts et qu'aujourd'hui on peut plus considérer la question du rap français en se limitant musicalement au rap français stricto sensu, c'est ça?
Disons qu'il y a plein de croisements à faire, ça c'est sûr. Les artistes ne nous ont pas attendus pour le faire. Hein. Et donc nous, comme on est très proche à la fois des artistes et du public, on va essayer de raccrocher tout ça. Et donc du coup, suivre aussi l'évolution à la fois des tendances et de la créativité aussi. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Et c'est vrai qu'on avait une étiquette pure rap français, ça c'est vrai. Si on regarde le bilan de la programmation, hein, à part 4-5 groupes nationaux qui ne sont pas venus chez nous, on le regrette bien sûr. Mais si on fait l'épopée du rap français, on les a quasiment tous fait, à quel que soit leur stade d'évolution.
Presque 2 années de fermeture, enfin pas loin, notamment aussi pour s'équiper en studio de répétition avec Et donc pour affirmer aussi la mission qui va au-delà de celle d'un espace de diffusion.
Oui, la franchise, c'est deux missions. La première, c'est la diffusion, ce dont on vient de parler. Et ensuite, à part égale, c'est tout ce qui touche à l'accompagnement et à l'aide au développement des jeunes artistes. Jeunes ou moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être artiste. Et donc, cette deuxième partie de notre travail, elle, jusqu'à présent, c'était essentiellement sur la scène, c'est-à-dire les résidences de scéniques et au studio d'enregistrement. Là, avec les travaux, on a demandé, on a obtenu deux beaux espaces de répétition. Et on va essayer donc de travailler d'une part sur une école de DJing en ayant la prétention d'arriver à terme à former des DJ. Alors que ce soit l'apprentissage, c'est-à-dire les techniques de base, que ce soit le perfectionnement ou que ce soit le beatmaking. On a autour de nous des DJ confirmés qui sont prêts à intervenir et à former. Et l'autre partie, ce sera la répétition avec des projets beaucoup plus, suivi qu'un simple local de répétition où il y a des créneaux hebdomadaires, on fait une heure, on sort, on s'en va. Là, on va monter des projets sur des sessions de 6 à 8 mois afin de se fixer des objectifs, de donner des créneaux à des groupes de façon régulière et surtout, avec l'infrastructure, essayer d'établir toute la chaîne de la préparation à la pré-prod, la scène et essayer avec d'autres dispositifs de permettre cette évolution des artistes.
Bah, ça fait partie, c'est un mouvement auquel la franchise participe localement, mais aussi plus largement. C'est parti, on a l'impression aussi d'un mouvement de structuration globalement du hip-hop en France. On pense au tremplin Buzz Booster qui a été initié plutôt par les gens de l'original à Lyon, auquel vous participez aussi. Il y a un vrai besoin de structuration de ces musiques-là, urbaines et hip-hop. Rania de Call 911 à Lille. Je ne sais pas si tu voudras réagir là-dessus aussi, mais on a l'impression qu'en effet, il y a nécessité à s'inscrire sur les différents endroits pour les opérateurs qui sont entre autres diffuseurs, festivals, salles, etc. Il y a aussi nécessité de répondre à une demande, de s'inscrire à différents endroits de la chaîne de j'ai envie de dire de production, c'est horrible comme mot, mais différents endroits de la chaîne de création quoi, et d'accompagnement. C'est...
De la vie d'un artiste, on va dire. Et c'est vrai que moi, ayant un label scène de musique actuelle, logiquement, on devrait se retourner autour de nos collègues nationaux pour essayer de créer un circuit de diffusion des artistes. Au fil des années, on s'aperçoit que les salles qui diffusent du hip-hop, en général, diffusent des artistes qui sont, on va dire, quasiment confirmés. Mais toute la partie artiste en voie de développement, dans le réseau des scènes de musique actuelles, c'est hyper dur de programmer des découvertes, dans le rap en tout cas. Donc on s'est rapproché de l'original, parce que l'original était porteur avec d'autres partenaires de festival hip-hop, du dispositif Buzz Booster. Et donc on a Rania ici qui fait partie du dispositif. Bienvenue Rania, je le répète.
Merci Miloud.
Elle a traversé toute la France puisqu'elle vient de Lille. Peut-être que je vais passer la parole tout de suite à Rania pour dire peut-être son avis sur le Buzz Booster et cette nécessité dont tu parlais, Stéphane.
Oui, c'était une nécessité. C'est finalement la concrétisation de cette réflexion-là, de se dire des artistes hip-hop en voie de développement, mais dont on constate qu'ils ont difficilement accès, en dehors des festivals hip-hop ou des acteurs hip-hop, à la scène. Et un peu, après, c'est le cercle vicieux. Si on est programmateur, oui, mais bon... voilà, pas une pratique professionnelle de la scène, oui, mais en même temps, si on leur donne pas l'occasion de pratiquer, ils l'ont pas. Et l'idée, de casser ce cercle vicieux. Et donc, la mise en place du dispositif Buzz Booster, qui a aussi le mérite, pour le coup, de mettre en lien des acteurs du hip-hop sur la scène nationale, comme La Franchise, comme 911 aujourd'hui. Voilà.
Il est soutenu publiquement, enfin par des fonds publics aussi, ce dispositif ou,
Alors peut-être pour expliquer ce qu'est ce dispositif, donc c'est une structuration interrégionale. Jusqu'à présent, on est 7 régions. Chaque région organise un système de détection et de soutien à des artistes. À l'issue de chaque détection régionale, il y a une finale nationale. Alors le soutien, on l'a obtenu pour la finale nationale à partir de 2013. Jusqu'alors, c'était de l'autoprod. Avec une finale itinérante jusqu'en 2013.
Sachant que les structures ou les festivals eux-mêmes, évidemment, ils bénéficient de soutien public, mais que, par contre, cette initiative-là, elle s'est vraiment montée par les acteurs eux-mêmes, finalement, et que c'est une initiative à l'échelle nationale.
Si soutien il y a, c'est un soutien en local.
Ouais.
Pour notre part, la ville de Lille, par exemple, soutient énormément le dispositif. Il se pose maintenant la question de son développement sur une autre dimension. Et voilà, l'évolution du dispositif à travers le travail de ces acteurs, de l'original, de la franchie et de nos autres collègues dans le réseau, elle se joue à ça aussi. À un moment donné, comment on imagine que le développement des artistes hip-hop émergents se fait aussi dans une dimension plus large, nationale, avec le soutien qui correspond.
Emmanuel, on est déjà parti dans le vif du sujet sur la question de la diffusion du hip-hop en France, développement des artistes et de comment il faut faire les choses un peu à la base. Emmanuel Chouleux de Radio Grenouille, bienvenue également au micro.
Bonsoir à vous.
Tu voulais rebondir.
Oui, une question un peu pour Julien Valnet qui est là et qui a donc fait ce livre, Mars, Histoire et légendes du hip-hop marseillais. Et puisque nous sommes à la franchie, il y a un certain nombre de chapitres, disons, qui sont consacrés au rôle qu'a joué la franchie justement dans la structuration de ces musiques. Là, alors c'est un petit retour en arrière, mais sans doute nécessaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle qu'a pu jouer une salle comme La Franchie dans la structuration de ces musiques, notamment dans les années 95-2001 ouais. Quoi.
Alors, je parle sous le contrôle de Miloud, évidemment.
Je contrôle jamais, moi.
Donc ouais, c'est 96, hein, je crois, La Franchie, mais ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est que c'est une histoire de militants. C'est vraiment, enfin... Les gens qui ont monté La Franchie étaient convaincus de la bonne raison de le faire et ils avaient une vision, je pense, à l'époque, qui était très 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 militante, qui était citoyenne, politique presque. Et pour rebondir aussi sur ce qui était dit sur... alors là, je reviens sur la période actuelle. Donc ça a été un café musique qui est devenu une SMAC. Et donc le système SMAC, en fait, est assez paradoxal parce que dans leur mission, les SMAC ont... obligation, enfin doivent faire du développement local sur les groupes locaux. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de SMAC en France qui ne le font pas vraiment. Et quand tu regardes les programmations, c'est là où c'est problématique, c'est que en fait, c'est quelques tourneurs et quelques groupes qui sont à peu près toujours les mêmes. Et du coup, tout ce qui est groupe en développement, local et tout, ça a souvent tendance à passer un peu à la trappe. Plus tu rajoutes pas mal d'a priori sur la programmation hip-hop, ce qui fait que et le développement et le hip-hop est peu représenté dans les SMAC en France. Donc c'est vrai qu'une initiative comme La Franchie, qui en plus est globale avec toi, de l'accompagnement, de la répétition, de la structuration, ça fait du bien, ouais.
Mais cette structure-là, accompagnement, production, c'était déjà la structuration qu'avait La Franchie dans ces années 90.
Ouais, il me semble, hein, Miloud, c'est ça. Hein.
En fait, l'asso a été créée en 90 sans avoir la salle. Donc, et dès 90, l'essentiel du travail consistait justement de l'accompagnement. Les premiers ateliers de musique assistée par ordinateur étaient faits à l'époque par Jaco Jacques, ici dans notre studio, avec un local de répétition qui nous était prêté par le centre d'animation. Où on avait, je crois, une vingtaine de groupes qui tournaient à l'époque déjà, sans qu'on ait déjà l'équipement salle de spectacle. Et d'ailleurs, on a eu le label Café Musique en 93.
Alors, vous avez bataillé même, je crois, pour le lieu à batailler, en tout cas, pour qu'il soit maintenu.
Il faut toujours batailler quand on est sur ce créneau-là, malheureusement, mais bon...
Mais je crois que c'est le maire de secteur qui voulait en faire un truc de loto pour vieux plutôt qu'une salle de hip-hop ou un truc comme ça,
disons,
non ?
Disons que l'équipement, une fois construit, était beau, quoi.
Ouais, donc il a attiré les convoitises.
On va en rester là. Et donc, du coup, c'est vrai que l'accompagnement a toujours été presque plus en avant que la diffusion, puisqu'on n'avait pas de lieu à l'époque. On faisait des spectacles dans le parc ici à Saint-Marcel, essentiellement en période estivale, bien sûr, puisque c'était du plein air. On avait pas mal de sollicitations aussi dans des festivals, mais c'était pas tellement lié au hip-hop. Hein. On était par exemple sur le festival des Nuits Blanches pour Musique Noire. On était aussi sollicité par l'AMI et à l'époque MRS, si je me souviens bien, Marseille Rock System, à la Friche Belle de Mai, au tout début de la Friche, et où on s'occupait en fait de toute la partie accueil des artistes. Ensuite, il y a eu Logic Hip Hop, où on a été partenaire sur une partie plus, on va dire, graffiti à l'époque, puisqu'on était en charge de rassembler les graffeurs du sud de la France. Donc on a toujours eu, avant d'avoir la salle de spectacle, une multitude d'activités de terrain. Et autour de nous, c'est vrai qu'on arrivait à attirer pas mal d'artistes qui étaient activistes et qui voilà, c'était notre moteur, quoi, en fait.
Malgré toute cette histoire forte, hein, de hip-hop à Marseille, le livre, tu le termines avec une note en disant « Bon, la structuration, elle est fragile à Marseille, elle n'est pas à la hauteur de ce que pourrait ce qu'elle pourrait être au regard de cette histoire-là, au regard du nombre d'artistes. Ça, c'est la manière dont Julien Valnet, tu conclus ce livre. Est-ce que, Miloud, vous partagez, Miloud Ragna, vous partagez finalement ce diagnostic de Julien de dire, finalement, la structuration de cette musique-là, elle n'est pas à la hauteur de ce que ça mériterait par rapport à une ville comme Marseille?
Ouais, et puis par rapport au talent aussi qu'il y a sur le territoire, quoi.
Bien sûr, oui.
Mais le lien, il ne se fait pas forcément par rapport au fait que... Parce que tu fais allusion par rapport à une ville comme Marseille. Moi, ce que je regarde plus, c'est la structuration au niveau national. C'est-à-dire que, moi, notre cheval de bataille dans le Buzz Booster, par exemple, c'est de faire circuler les artistes. Donc le tout, c'est de trouver des points de chute et des partenaires, des militants, des activistes qui ont quelques moyens pour pouvoir accueillir nos artistes et les faire tourner entre nous. Et le Buzz Booster, c'est un moyen formidable, puisque le prix, au final, du vainqueur national, c'est une tournée de minimum une dizaine de dates. Parce qu'en dehors des dates de chacun des membres, les festivals ont toujours l'occasion, durant l'année, de faire des programmations dans des salles. Donc la structuration, elle est nécessaire, parce que tant que les groupes ne sortiront pas de leur petit carcan, entre guillemets, l'émulation, elle ne se fera pas. Alors, vu que les salles de spectacle, on voit que c'est un peu bloqué quand même. On a fait le constat, Julien a rappelé cet état de fait. Il y a des chiffres, hein, le CNV qui est chargé au niveau national de récolter toute la partie diffusion des spectacles. Depuis, c'est récurrent, chaque année, le CNV constate que le hip-hop représente 4% de la diffusion nationale.
Les derniers chiffres, ils sont plus alarmants, c'est moins de 2% de la programmation des SMAC au niveau national, alors que c'est leur raison d'être. Donc, du même constat que Julien fait à la fin de son livre, de ce que vient de dire Miloud, le Buzz Booster, c'est notre solution. Donc oui, effectivement, en local, une structuration fragile, mais une meilleure diffusion, une émulation au niveau national, un buzz, finalement, doit aider à ça. À un moment donné, on a l'exemple de Némir, le premier lauréat national. Némir, il vient pas de Paris. Hein. Voilà, il est Perpignan, et c'est ce que ça aide aussi. Ça aide à faire rentrer ça aide à rendre ça visible sur la scène nationale. Du coup, les groupes, moi je le vois dans le Nord-Pas-de-Calais, ils le voient ça aussi. Ça donne aussi l'envie aux groupes de se structurer, de plus seulement de se laisser prendre la main, se laisser mener, d'être aussi acteur des dispositifs. C'est pas les partenaires du Buzz Booster qui vont tout faire pour le rap en France, non. C'est aussi avec le concours des groupes. Et ça crée l'émulation dans le hip-hop aussi. Donc c'est notre esquisse de solution à tout ça. À un moment donné, si ça bloque quelque part, t'as dit un mot tout à l'heure important, le mot activiste. Peut-être qu'à un moment donné, c'est aux acteurs eux-mêmes de se prendre en charge et de se dire on va changer la vapeur un peu.
Est-ce que l'apparition d'Internet et le fait que, par exemple, les groupes travaillent sur des clips et cherchent des questions de vue sur Internet, ça a changé quelque chose quant à la manière dont vous pouvez identifier les émergences aujourd'hui au niveau de cet endroit qui est le hip-hop, le rap? Est-ce que Internet joue un rôle particulier dans la manière dont vous pouvez identifier les émergences? Il y a des groupes, par exemple, qui vous échappent et qui apparaissent sur Internet ou pas du tout?
C'est comme un bon chercheur, là, faut croiser les méthodes. Alors oui, Internet, ça a révolutionné le mode de consommation. On consomme plus la musique pareil, donc on va diguer les rappeurs autrement. Ça n'empêche, il y a aussi la génération qui veut ça, hein. La nouvelle génération, c'est une génération Internet. Ils font du clip, ils font du scud, ils font pas de scène. Voilà, nous, il y a 15 piges, un rappeur, il commençait par la scène. Jamie, il pensait qu'il allait faire un album. Aujourd'hui, il faut un album avant de faire un concert, un open mic ou bien. Donc, ça veut pas tout dire. C'est clair que pour nous, en tant que programmateurs, c'est un outil de ouf. On découvre, il y a des pépites sur le net, ça c'est clair. Voilà, faut aller diguer, faut aller. Mais c'est pas une fin en soi. Un groupe qui a une super iconographie, des clips tout propres, qui se rend visible, les réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux dans le milieu hip-hop. Moi, j'ai un gros travail de veille sur Facebook, Twitter pour le rap. Mais c'est pas une fin en soi. On peut aussi avoir des déceptions en tant que programmateur. Par contre, en tant qu'accompagnant, ça peut être le point de départ d'un bon boulot, quoi, de les repérer. Donc ouais, ça a modifié de toute façon les modes pour tout le monde, hein, pour les professionnels, pour les artistes eux-mêmes, pour le public. Mais il faut en retirer le meilleur. Faut voir ce qu'il y a de bon dedans.
Mais après, je crois pas que ce soit limité au hip-hop. Il y a eu un changement de paradigme dans l'économie de la musique au début du 21e siècle, avec l'arrivée d'Internet, avec de nouveaux modes de consommer, d'acheter, de produire, ou de pas acheter aussi, ce qui a posé un certain nombre de questions.
Ou de pas venir au concert.
Ouais, ou de pas venir au concert. La scène qui est revenue, je crois que c'est, je sais plus si c'est en 2000, je pourrais plus te dire l'année, mais il y a un moment donné où les revenus du disque sont devenus moins importants que les revenus de la scène, ce qui fait aussi que par exemple, en conséquence, t'as tous les gros artistes américains qui viennent en Europe. C'est pas parce qu'ils aiment l'Europe, mais c'est parce qu'ils vendent plus de disques et que l'euro est fort, tu vois.
Et qu'ils vivent de ça, ouais. Même limite sur des artistes français aujourd'hui, si on se pose la question de la professionnalisation, un artiste hip-hop, il va pas vivre de sa SACEM, quoi. Il va vivre de ses cachets. Et voilà, leur statut, ils l'obtiennent comme ça. Et ouais, donc ça, c'est une conséquence, en fait. Hein. C'est pas le contraire.
Non, et puis après, c'est pas qu'il n'y a plus d'argent, c'est un modèle économique qui est en train de se réinventer, qui est nouveau. Et si t'es malin, si t'as la bonne idée, tu peux très bien faire ton truc.
Après, il y a un truc en France, on n'est pas aux States, hein, en France, pour une partie, là, ça évolue aussi parce qu'on a une nouvelle génération. L'argent, ça reste un tabou dans le hip-hop. C'est compliqué de parler d'argent, de business. Il y en a qui le font très bien. Et voilà, on n'est pas au niveau encore des Américains où on peut parler librement de cette économie-là. Nous, c'est un truc qu'on constate avec les groupes. Et quand on parle de professionnalisation, on parle de ça aussi. Dans le réseau Buzz Booster, l'idée de un groupe, quand il joue, il a un cachet, il a quelque chose autour. L'environnement professionnel, c'est ça aussi. On va pas vous parler de professionnalisation si vous n'êtes pas reconnu en tant qu'artiste avec un cachet, etc. Et ça reste encore difficile. Ça reste difficile pour les artistes, mais ça reste difficile pour les professionnels aussi. Quand vous tombez sur vos collègues de la culture en région de SMAC et qui considèrent « Oh, mais c'est un groupe, on va pas les payer. » Comment ça, tu vas pas les payer ? C'est un groupe de rap, d'accord, mais c'est comme ton groupe d'électro ou de pop-rock. C'est un artiste, il est rémunéré, il a un cachet, il a un défraiement. On le met sur la com, comme tout le monde. Voilà, donc ça, c'est encore compliqué d'associer hip-hop, qui est un vrai phénomène économique aussi, ça c'est clair et net, aux réalités et puis aux un peu aux a priori des acteurs qui le font aujourd'hui en France.
Milou doit y aller, donc on va te libérer, hein, puisque tu es demandé ce soir, je crois.
Mais en fait, on va avoir la projection qui va pas tarder. Et voilà. En tout cas, je suis pas loin, hein, puisqu'on est ensemble jusqu'à la fin de la soirée, et peut-être à tout à l'heure.
On est ensemble en direct jusqu'à 22h. Rania, je te garde encore un petit peu si tu veux bien. Justement, je voulais te demander, toi qui as connu Marseille aussi, et qui est voilà, plutôt une pratiquante et une activiste de ces musiques-là. Et maintenant, tu es sur l'île depuis combien de temps maintenant ? Depuis une dizaine d'années. Comment tu... Quelle différence tu pourrais souligner parce qu'on l'a vu, vous le disiez en filigrane, il y a une situation nationale où il y a, on va dire, un manque de reconnaissance dans les circuits de diffusion, de production de ces musiques-là. Mais il y a aussi des spécificités, on va dire, locales, des vraies spécificités locales. Tu me disais, par exemple, en off, que, par exemple, le hip-hop à Lille, c'est un vrai enjeu politique aussi. Alors qu'à Marseille, par exemple, le hip-hop dans la politique culturelle, c'est quelque chose qui est relativement absent au regard surtout de la manière dont cette culture-là est pratiquée dans la population. C'est une première différence peut-être, mais il y en a d'autres.
C'est plein de paradoxes en fait. Oui, je ne peux pas m'empêcher d'être dans la comparaison avec ce que j'ai connu à Marseille, ce que j'ai vécu très fort. Je venais déjà d'ailleurs, j'étais déjà du Nord. Ce qui m'a frappé à l'époque, donc moi j'étais là en 99-2000, ça fait plus de 10 ans. Ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est que contrairement à d'autres régions à la nôtre, le rap marseillais, il a une identité très très forte. D'ailleurs, quand je suis venue chercher le hip-hop, j'ai trouvé le rap en premier. Voilà. De son histoire, de son historique, des grandes figures que l'on fait. Ça se voyait hier, hein, fallait être au concert ici quand Don Chua est arrivé et qu'il y a eu les morceaux de l'AFF. C'est quelque chose quand il y a eu Puissance Nord. Donc voilà, c'est vraiment une identité rap marseillais très forte. Ça suit un peu l'historique de la ville. Hein. Quand on dit Planète Marseille, les Ayam, on les comprenait, hein, parce que c'est vraiment très particulier dans l'esthétique, dans ce que ça dégage. Voilà, ça n'a pas son pareil. Donc déjà, une identité rap très très forte, là où nous on va s'interroger, est-ce qu'on peut dire qu'on est un rap du Nord par exemple, j'en suis pas sûre, là ils ont pas besoin de carte de visite les rappeurs marseillais, donc déjà il y a ça, donc ça veut dire aussi une population, une jeunesse et pas seulement une jeunesse à Marseille qui s'est vraiment approprié ce rap, qui en est vraiment très proche, encore une fois, la réaction des gens hier avec les artistes marseillais, avec Don Chua, c'était beau, tu vois. À côté de ça, paradoxalement, oui, la sensation que par rapport à ce que je vis aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce qu'il y a les élections municipales qui arrivent, hein, c'est toujours une période, c'est un peu Dallas là en ce moment, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais comme ailleurs, j'imagine. Oui, la sensation que... Alors, il y a une SMAC spécifiquement dédiée aux musiques hip-hop ici qui est la franchie, ce que je trouve génial. Moi, j'ai pas vu ça ailleurs et voilà, on n'a pas ça dans le Nord par exemple. Et à côté de ça, là où effectivement dans le Nord-Pas-de-Calais, alors c'est les cultures urbaines dans leur ensemble là, qui sont très gros enjeux politiques. Il y a une maison du hip-hop là qui va faire son apparition. Il y en a une à Châtelet aussi, à Lille. C'est devenu un gros enjeu aussi au niveau des politiques, des financements culturels européens. Donc là, vraiment, on élargit. Et puis, hip-hop, c'est universel. Je pense à l'Afrique, par exemple. Il y a un réveil au Sénégal. Là, ils sont en train de vivre ce que la France a vécu il y a 20 ans, ce que les States ont vécu il y a 30 ans. En termes de phénomène sociologique avec le hip-hop, la différence, c'est que là-bas, le gouvernement au Sénégal, il n'a pas fait la même chose qu'ici en France. Il a vraiment conscience du phénomène du hip-hop sur la jeunesse, notamment. Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement Y en a marre de rappeurs qui a quand même réussi à influencer la population et le vote en masse des jeunes et qui a déstabilisé le précédent gouvernement Wad. C'est là où on voit la force populaire du hip-hop. Le Sénégal l'a compris, le gouvernement y travaille. La France ne l'a pas fait, elle ne le fait pas jusqu'à maintenant de toute façon. Donc oui, il y a ces paradoxes. Alors à Marseille, visiblement, non, ce n'est pas un grand sujet. Cela dit, il y a une structure. Là où à Lille, il va y en avoir une, c'est un gros enjeu, mais l'attention donnée à l'accompagnement et au développement des artistes n'est pas le même. Le hip-hop, c'est plein de paradoxes. Le hip-hop et la politique, c'est un paradoxe en soi, de toute façon.
Tu parlais de la différence, enfin de ce qui se passe en ce moment au Sénégal, et où en effet, c'est un mouvement des acteurs qui prennent la parole et dont la parole pèse lourd, y compris dans le cercle politique. En France, on a l'impression que cette concrétisation politique du hip-hop, en effet, elle n'a pas eu lieu, et c'est pas que le fait du gouvernement non plus, j'ai l'impression. Hein. C'est aussi... Julien, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça?
Alors après, est-ce qu'on a besoin du politique? Je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on voit sur Marseille, parce que je sais pas trop comment ça se passe ailleurs, mais soit c'est pris comme un pansement social, c'est-à-dire on va payer des studios, des ateliers, des machins, pour que les mômes se tiennent tranquilles, mais de là à réfléchir en termes d'art, tu vois, on en est loin. Effectivement, la question de la maison du hip-hop à Marseille a été évoquée moult fois, notamment par IAM, mais elle verra pas le jour. Il y a effectivement, moi je pense, un déficit de structuration, et on l'a vu sur l'année capitale, c'est-à-dire on va pas dire qu'il n'y a rien eu, il y a eu des choses, il y a eu des choses à la prison de Luynes, il y a eu le projet Watt, mais c'était quand même minimal par rapport à la capitale. Mais moi j'ai envie d'élargir un peu, c'est-à-dire c'est la question des cultures populaires, c'est-à-dire où sont les cultures populaires, où étaient les cultures populaires dans la capitale, où étaient les cultures comoriennes par exemple, maghrébines, je sais pas, enfin corse, méditerranéenne aussi, qui a été complètement expulsée, occitane, tu vois. Donc les institutions, les politiques voient ça comme un pansement social. Après, il me semble aussi que il y a un truc où des deux côtés ça a du mal à se parler, c'est-à-dire les gens de hip-hop ont peut-être un petit peu du mal à aller vers l'institution, et l'institution sait pas comment s'adresser à cette humanité-là. Il y a un exemple très simple, c'est le dispositif CAC.
Où il y a quasiment aucun groupe de hip-hop. Enfin, il y a aucun groupe de hip-hop au sens propre, il y a un peu du slam, un peu... Ouais. Ouais.
Ou Under Control, mais Under Control, ils sont sur des réseaux Music Zack, tu vois. Et je sais que...
Le CAC, on parle du CAC en région PACA, bien
voilà,
sûr.
Voilà, donc le CAC, c'est, on va peut-être expliquer, c'est un dispositif de la région d'accompagnement en groupe, avec de l'argent qui est donné pour ou de la création, ou de la production, ou de la tournée. Et tu vois qu'il n'y a aucun groupe de rap. Et je sais que le chargé de mission de la région n'est pas contre, bien au contraire. Mais il y a un dialogue qui ne se fait pas.
Donc ouais, c'est peut-être aussi les acteurs du hip-hop qui en effet ont du mal à entrer en dialogue et vice-versa avec le politique.
Oui et non. Nous, par exemple, à Col 911, bon, c'est une structure qui existe depuis 14 ans maintenant. Aucun complexe à travailler avec de l'argent public. La culture, c'est une mission des pouvoirs publics. Une société sans culture, c'est compliqué. C'est peut-être plus la question de la considération du hip-hop comme une culture. Je vous donne une anecdote, hein, relevée par mon directeur précédent. On est des professionnels de la culture à Col 911, spécialisés dans le hip-hop, mais on est des professionnels de la culture. C'est ce que je raconte souvent. Quand on va au conseil régional voir notre technicien, notre financeur, et qu'on a des longues réunions qui permettent de démontrer toute notre compétence en ingénierie de projet de développement culturel, etc., et qu'à la fin, il nous dit « Alors, qu'est-ce qui tourne sur la tête, là ?» Bon, allez, on va tout recommencer à zéro. Non, nous, on est des professionnels de la culture. Voilà, la nana qui vient défendre un projet danse classique, on lui demande pas quand est-ce que tu mets ton tutu. Alors, c'est ça aussi peut-être le problème. C'est aussi la considération du hip-hop aujourd'hui, 30 ans plus tard, comme une culture à part entière qui s'est développée avec ses spécialistes, ses professionnels. Et voilà. Et le souci, peut-être là, vous évoquiez un dispositif en région Nord-Pas-de-Calais, en région PACA. En Nord-Pas-de-Calais, c'est pareil. Des dispositifs de développement et de repérage des artistes musiques actuelles, au sens large du terme, il y en a plein. Il n'y a pas un groupe hip-hop dedans. Donc, on a réagi. Ils ont décidé de venir nous voir et de nous dire on aimerait bien qu'il y ait du hip-hop, comment on peut faire. Voilà, on sait que c'est un peu hermétique. Voilà, c'est bien, c'est un premier pas, mais ce premier pas, il a mis 10 piges à se faire quand même. Hein. C'est quand même compliqué. Hein.
Justement, je voudrais te poser une question, Rania. Moi, j'avais un peu l'impression que le dispositif Buzz Booster, c'était aussi pour pallier le fait que le Printemps de Bourges, en fait, il n'y avait jamais de groupe de rap.
Il y a ça aussi, il y a certains membres du dispositif qui ont une belle parole parce qu'on réfléchit vraiment à l'évolution du dispositif au niveau national et à ce qu'il peut apporter, à la manière dont nous on repère les artistes. L'ambition, c'est d'être un Printemps de Bourges du hip-hop. Milou, qui n'est plus là, mais qui donnait l'exemple de Némir. Printemps de Bourges, ils ont attendu cette année pour le découvrir, Némir. Nous, Némir, ça fait des années qu'on l'a découvert, parce que son talent, il nous éclaboussait, et que voilà, qu'il y avait notre partenaire de la Casa Musicale, membre du réseau Buzz Booster, Nasty, qui est là ce soir, qui est aussi venu soutenir les collègues, la franchie. Donc oui, voilà, c'est ça. Ce qu'on évoque, c'est vraiment un niveau national. Alors, après, c'est plein de trucs. C'est quoi? C'est les a priori sur le hip-hop, c'est le fait que les circuits soient fermés. Comme tu l'as dit, Stéphane, tout à l'heure, c'est pas du côté des institutions seulement, hein, c'est aussi chez les hip-hoppers. Quelle est cette tendance à aller ou pas? Quand je parlais de complexe, nous, à notre niveau, non, pas de complexe à travailler avec de l'argent public. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que le hip-hop, c'est aussi un projet de société. Pourquoi pas?
Alors, la diffusion ici du film Smells Like Hip Hop de Monsieur Roquette a commencé, enfin, d'une partie du film, hein, parce que vous pouvez le voir sur Canal Street, sur le web, où il est mis librement à la diffusion. C'est un abécédaire, donc 26 lettres, 4 minutes et quelques pour chaque, donc c'est assez long, mais il y a une partie des épisodes et donc des lettres qui vont avec, qui sont diffusées ici à la franchie. Et le Q, c'est quête de reconnaissance, ça me fait penser à ce que vous dites, et en effet, on a l'impression que ça dépasse la relation, on va dire, de l'activiste hip-hop à l'institution. C'est plus globalement que ça, on a l'impression quand même qu'il y a, d'après ce que vous dites, je tire un fil, c'est qu'il y a une spécificité un peu française qu'on ne va pas retrouver par exemple aux États-Unis ou au Sénégal, même pas tout à fait pareil, qui est peut-être de considérer qu'en effet, il y a la culture avec un grand C, et que un peu tout ce qui est culture populaire, et peut-être plus particulièrement le hip-hop qui vient des quartiers les plus populaires, c'est ce qu'on appelle un peu une sous-culture. Et d'ailleurs, je crois que dans cet épisode-là de Smells Like Hip Hop, ils en parlent, et la différence entre sub-culture en anglais, qui veut dire que ça fait partie du tout de la culture, et, bon, c'est une des branches, quoi, et sous-culture en français, qui de suite, c'est un terme qui sonne de manière un peu péjorative à toutes les oreilles, quoi.
Ouais, mais c'est paradoxal parce que le hip-hop est la première pratique culturelle en France. Si tu prends la danse, enfin toutes les disciplines, largement devant.
D'accord.
Mais ouais, tu vois, aux États-Unis, c'est enseigné dans les universités. En France, on en est loin. Mais ouais, je sais pas toi, Rania, t'en penses quoi?
Bah, t'en as donné un élément tout à l'heure. Toute cette politique qui aurait dû être une politique culturelle en France, je pense aux années 90, ou qui va plus donner l'impression. Alors, où il y a eu de l'argent pour le hip-hop, mais plus aller faire votre boulot dans les quartiers, là, ouais, dans les MJC. Ouais, c'était, voilà, c'était le hip-hop de MJC, tu vois, un peu. C'est achetons la paix sociale dans les quartiers. Et nous, on a vraiment eu l'impression, là, avec le recul, c'est vrai, ouais, on a été faire leur taf, quoi, en gros. Alors que le boulot, c'était pas ça. Nous, c'est pas ce qu'on revendique. On est en train de parler d'artistique. On est en train de parler. Le hip-hop, c'est une culture. Quand on. Alors, il y a un gros débat chez les hip-hoppers, culture, mouvement. Moi, je pense que c'est un peu des deux. Moi, pour moi, c'est un phénomène, le hip-hop.
Oui, il y a déjà un débat sur c'est quoi la culture. Enfin bon, ouais.
Ouais,
c'est des grandes questions, mais on est tout cas.
Mais du coup, voilà, si le hip-hop les pose, ces questions-là, ça prouve la valeur du hip-hop à rentrer dans ces débats-là et que c'est pas seulement un effet de mode qui est apparu il y a 20 ans dans les quartiers parce que les mômes s'emmerdaient, quoi. Et le souci, c'est qu'on est resté sur ça. Je pense que c'est Akhenaton qui avait ces mots-là, qui disait qu'il y a une culture sociale du hip-hop en France qu'il n'y a pas aux États-Unis, là où le hip-hop il est décomplexé, où la partie having fun elle n'est pas oubliée. En France, non, le rap ça a été du rap conscient qui était là pour parler des quartiers. Alors c'est bien aussi, c'est l'identité du rap français, mais c'est pas que ça le hip-hop. Et je pense que les gens qui ne le connaissent pas, ils en sont restés à ça, quoi. Donc ça veut dire que bah, c'est bien, on peut faire du hip-hop dans les quartiers, mais on peut pas en faire au théâtre. Alors la danse a beaucoup aidé. Aujourd'hui, bon, on parle pas de graffiti parce que c'est mieux de parler de street art, tu vois. Comme on parle pas de hip-hop, on parle de cultures urbaines. Hein, c'est... Ouais. Mais bon, il y a une évolution, on va pas se plaindre non plus. Et encore une fois, je viens de Lille où il y a une politique culturelle très forte, où il y a une très grosse offre culturelle. Il y a là aussi la personnalité de Martine Aubry voilà, qui a beaucoup fait. Donc on peut pas avoir le tableau tout noir, mais c'est clair qu'en termes de considération, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais.
Mais tu vois, Rania, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, le terme cultures urbaines, en fait, c'est un terme qui vient de la politique de la ville, à la base. C'est après les émeutes en région lyonnaise au début des années 90 que des gens de la politique de la ville ont mis un nom sur ces pratiques-là. Et en fait, il faudrait faire une analyse précise et fine des modes de financement public du hip-hop, mais en fait, tu te rends compte que c'est essentiellement la politique de la ville et pas la culture. Donc, on te finance pour du social, mais pas pour de l'art ou du culturel. Et ça, c'est assez problématique, en fait, quelque part. Après, peut-être que l'argent n'a pas d'odeur et on s'en fiche, mais on voit bien quand même dans quelle case on va mettre ça.
Des fois, t'as les sports aussi. Voilà, c'est... Alors que le hip-hop, c'est pas du skate, c'est pas... Oui, ça c'est... Alors, là, je veux pas cracher dans la soupe, la Col 911, aujourd'hui, si je dois faire le point sur nos financements, on a la grande fierté d'être financé majoritairement par les services culture des collectivités. Alors, quelle bagarre en 14 ans pour en arriver là, c'était... compliqué, et puis voilà, faut pas lâcher l'affaire, mais voilà, ce que tu dis, c'est vraiment... Alors après, quand je vais interroger, il y a énormément de structures, on est de la structure professionnelle du Nord-Pas-de-Calais, mais il y a plein d'initiatives, de petits porteurs de projets qui se sont structurés en asso, et là, c'est toujours la même. Eux, c'est fais un clap, fais un projet jeune, voilà. Alors que non, ça peut toucher à la culture, clairement, quoi, vraiment. Et j'irais même plus loin, enfin, là, justement, c'est la question des financements européens qui... Bah on voit qu'on n'est pas en France. Il y a d'autres modes de pensée. On va être mis dans des cases, mais dans des autres. Donc ça fait du bien aussi un peu.
Emmanuel ?
Oui, non, c'est juste par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que le financement, c'est les financements plutôt hein, de la politique de la ville. Ce qui signe quand même d'abord hein, une absence de reconnaissance du hip-hop comme geste artistique. Et en même temps, ça signe aussi, sans doute, et là peut-être vous aurez à réagir, le fait que le hip-hop est encore subversif vis-à-vis d'une certaine idée de ce qu'est l'art ou la culture. C'est-à-dire, le fait de ne pas l'entrer dans des financements culture ou artistiques signifie de la part des gens qui le financent normalement à cet endroit-là une résistance. C'est-à-dire de ne pas voir le hip-hop rentrer dans le champ sacré du monde de l'art. Donc ouais. Est-ce qu'il y aura encore une puissance subversive, du coup, sans doute, bah, à cet endroit-là ?
En tout cas, ce qu'on constate, c'est que si, quand ils chantent, rentrent dans le champ sacré de l'art, c'est, il faut qu'ils s'accoquinent avec ce qu'on appelle la grande culture. C'est-à-dire, les hip-hoppers sont rentrés dans les théâtres à partir du moment où ils sont allés voir du côté de la danse contemporaine.
Ou de la tradition littéraire.
Ou de la tradition littéraire, tu vois, enfin...
francophone.
Voilà, ou ouais. Camus, par exemple, à Aix, tu vois, c'est un... Ouais. Sinon, effectivement... c'est extrêmement difficile de rentrer dans, enfin, ou alors c'est des propositions très spectaculaires, toi, enfin presque
hybrides, ouais, généralement qui ont le besoin d'un. T'as raison sur ce que tu dis. D'ailleurs, le slam il rentre mieux que le rap à un moment donné. La danse, quand elle est, voilà, quand on est sur de la création hybride avec la danse contemporaine, ou alors sur la production, au moins dans l'écriture chorégraphique, un peu hybride, ben ça aide. Là, moi, récemment, j'ai été voir la nouvelle pièce de Kader Atou. Voilà, c'est un peu... Voilà, en même temps, je dis ça, mais il y a d'autres critères aussi qui ne vont pas dans ce sens-là, mais ça fait du bien de voir du hip-hop et que du hip-hop, à un moment donné, que le hip-hop n'ait pas besoin sans cesse d'être mélangé avec autre chose pour avoir son droit d'entrée.
On a l'impression que c'est un peu ça, quand même. Il est validé, et pas que par l'institution, on va dire par les instituts, par les instances prescriptrice de ce qui est culture, de ce qui fait culture, ouais. Ou pas, il est validé qu'à partir du moment où, en fait, cette validation vient tout le temps de l'extérieur, quoi. C'est jamais...
Mais alors, du coup, ouais. Et c'est ce qui est dommageable, c'est que quand tu rentres dans ces... Alors, on en est content malgré tout. Enfin, moi, en analysant, il y a quand même eu du hip-hop dans tel théâtre. Donc ça... ça permet peut-être aussi à un moment donné d'installer un pont, d'installer un dialogue. Moi, je suis content que d'autres populations, d'autres publics qui n'auraient pas eu l'idée d'aller voir un spectacle de danse hip-hop le fassent.
C'est aussi des passerelles.
Ouais, et se sentent concernés. Ouais. Dit malheureusement, donc ça, c'est un premier pas. Le deuxième, la finalité, c'est quand les publics se mélangeront. Voilà, nous, on essaye de faire ça maintenant, peut-être avec une programmation sur laquelle on prendra plus de risques. Mais on en parlait avec Julien. C'est la mixité. Le hip-hop, c'est une culture universelle qui s'est fait de plein de petits morceaux de culture, d'autres cultures. Ce qui serait beau aujourd'hui, au-delà justement de ce versant politique, de financement, de structuration, ben, qui met des murs finalement entre les gens, de revenir à ça, quoi. Si à un moment donné, dans telle scène nationale ou dans tel théâtre, on a le public du théâtre, mais aussi le public hip-hop, et que ces gens-là se mélangent et ont le même langage le temps d'un spectacle, c'est magnifique. Alors ça fait un peu bisounours, hein, ce que je vous raconte là, mais je pense que c'est vraiment la force d'une culture comme celle du hip-hop. C'est pour ça que je ne peux pas envisager qu'elle ne soit pas considérée de manière grand public, politiquement, culturellement, socialement, parce que je pense vraiment que peut-être plus aujourd'hui, en 2014, que certaines autres cultures, elle a ce pouvoir-là encore. Alors, sur la question de la subversibilité, alors, voilà, ça aussi, c'est un des grands paradoxes du hip-hop. Alors, je pense vraiment que le hip-hop n'aurait pas lieu d'être s'il perd ça. Voilà, c'est l'histoire du hip-hop, c'est comme ça, on peut dire en hip-hop des choses qu'on dit pas dans la variété, et il faut que ça reste. Après, est-ce que c'est si paradoxal que ça de vivre encore cette musique-là comme ça, avec des entrées institutionnelles et tout? Moi, je pense que c'est pas antinomique, mais par contre, faut pas vendre son âme au diable, faut pas y perdre son âme, quoi, en fait.
Et c'est marrant, la variétisation, je sais pas comment dire ça, moi j'écoute pas ces grandes radios nationales qui passent que du rap, et il me semble...
Moi je suis obligée.
Il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui passent là-dessus, qui sont en fait une certaine forme de variété actualisée, toi en version 2014, et ça me fait beaucoup penser en fait à l'histoire de la Jamaïque dans les années 70. En fait, bah, alors, je vais peut-être dire des choses un peu approximatives, mais en gros, il y avait deux mouvements. Il y avait le mouvement Conscious, qui était proche du parti de gauche de Michael Manley, avec Bob Marley, avec les Rasta, tu vois, qui était un vrai mouvement révolutionnaire. Et de l'autre côté, tu avais ce qui était de l'ordre de ce qu'on appelait le slackness, c'est-à-dire le graveleux, les histoires de fesses, de cul. Et en fait, il y a eu un combat politique qui a été... chaque parti, si tu veux, avait une boîte de production. Et en fait, on se rend compte que la politique a extrêmement favorisé le slackness contre le conscious. Parce que le conscious était porteur d'un message et était porteur de quelque chose de révolutionnaire. Et quand tu regardes le dancehall jamaïcain aujourd'hui, ça ne parle que de cul, essentiellement. Et en fait, le cul n'est pas subversif. C'est un mode de contrôle aussi. Et des fois, j'ai l'impression aussi que en favorisant cette espèce de variété rap qui, moi, me convient pas et que je trouve pas porteuse de messages, finalement, t'affaiblis le côté conscient et la force puissante, politique, subversive et révolutionnaire du hip-hop qui est son essence même.
Je crois qu'on est tout simplement dans le politiquement correct, quoi. Il y a du hip-hop, il y a Skyrock, il y a du hip-hop, hein. Tu rentres dans les magasins, moi, une fois, j'entends du hip-hop, les habillages des pubs aujourd'hui, elles sont hip-hop, etc. Enfin, hip-hop, elles sont rap. Mais c'est un rap qui dit rien, quoi, finalement. C'est-à-dire, tu les écoutes, les mecs, c'est bien, t'as bougé pendant 2 minutes, mais il a rien dit. Voilà, tu retiens rien. Donc oui, effectivement, c'est peut-être un rap qui convient plus à la masse. Là où il y a 15 ans plus tôt, le rap, c'était pas du tout populaire au sens grand public. Ça l'est aujourd'hui, avec les sections d'assaut, avec d'autres trucs. Finalement, à perte, j'ai l'impression, aujourd'hui. Alors, il en reste quelque chose, hein. Moi, je crache pas sur ces groupes-là. C'est parce que le hip-hop, c'est aussi de la vibe, c'est de la musique, mais le message, t'as parlé de message, c'était quand même très caractéristique du rap, hein, à l'origine. Il y est plus. Alors, est-ce que c'est... Alors, je suis très prudente avec ça. J'ai pas envie de rentrer dans le délire Mathias Cardet. Oui, on a créé le rap pour contrôler les masses. Je pense qu'on est seulement dans le politiquement correct. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une radio comme Skyrock ou d'autres choses, c'est un business. Et que ce business, il est très étroitement lié aussi au pouvoir. Et qu'à un moment donné, il faut le préserver. Et on ne le préserve pas en allant mettre du subversif. Et c'est comme ça que l'underground, il continue à exister.
J'ai envie de rebondir en disant peut-être qu'il ne faut pas confondre non plus révolutionnaire et subversif, quoi. C'est-à-dire la nature du subversif, c'est aussi de coller à l'idéologie dominante au moins en apparence, mais tout en détournant les codes. Et ce que tu dis, par exemple, du dancehall jamaïcain, j'avais rencontré Abdoulaye Gueye, qui était marseillais à une époque, qui a écrit une thèse sur le sujet du dancehall jamaïcain, et il dit, en fait, il est subversif. Alors, il n'y a pas de pensée structurée, politique, de la contestation du système en place, mais dans la manière dont il met en scène cette idéologie dominante, consommation de masse, sexisme, etc., dont il la met même, dont il en fait son sujet principal, si tu veux, il y a quelque chose de subversif là, parce que finalement, ça met en lumière les aspects les plus négatifs aussi de la société, et ça en fait même, et on fait de l'argent avec ça, quoi. Donc, on rejoint presque un point de vue un peu post-punk, dans l'idéologie, tu vois, Malcolm McLaren et tout, qui était de dire, oui, bon, la société, c'est de la merde, moi, je fais de la merde, mais c'est ça ma manière d'être, finalement, d'introduire de la subversion dans cette pop un peu insipide, etc. Alors, je sais pas si on en est là aujourd'hui avec le hip-hop en France, j'en doute, mais, bon, alors, Booba subversif ou pas?
Je sais pas, Booba subversif, j'aurais pas de réponse.
Par exemple.
Moi j'ai une fascination pour Booba incroyable jusqu'à aujourd'hui pour plein de raisons différentes. Ben, subversif, a priori on aurait envie de dire non, mais oui. Enfin, le mec, en même temps, là il est en train de faire un bras d'honneur à la France, il peut. Hein. C'est vu ce qu'il a développé. Alors je pense moins au rap, je pense à Uncut par exemple, en termes économiques. Subversif à fond pour le coup. Je pense à un autre truc, je suis moins fascinée par Caris que Booba, mais en ce moment, pas polémique, mais gros sujet de conversation dans le rap, c'est Caris, donc qui est le protégé de Booba, il y a quand même un lien. Rap crade, mais crade, moi je suis une meuf, j'ai du mal à écouter, mais c'est du rap. Alors, rap crade qui passe sur Skyrock, qui est repris par toute la petite jeunesse qui n'était pas hip-hop avec un public assez jeune. Mais quelque part subversif, pourquoi? Parce que le rap c'est ça aussi, c'est aussi un truc crade comme ça de la rue, et alors il n'y a pas le message, il n'y a pas ce que nous, moi à un moment donné je me suis posé la question de la programmation, est-ce que c'est ça moi en tant qu'acteur de la culture, est-ce que c'est ce message que j'ai envie de passer aux gamins, etc. Mais d'un côté il est intéressant Caris quand même, bon déjà il est très bon sur scène, mais c'est aussi parce que à un moment donné il prend une grosse place dans le business de la musique hip-hop aujourd'hui, sur des grands médias, etc., en apportant ce truc crade. Donc finalement, ouais, il leur remet le nez dedans quand même. Donc ouais, la subversivité, elle est peut-être pas au sens où on l'entend d'une réelle opposition, mais quelque part, ouais, on en vient, quoi.
Et dans finalement ces tentatives de neutralisation du hip-hop, du rap, là, que vous avez décrit un peu tout à l'heure, il y a aussi la question du rôle de la critique. Par exemple, dans ce livre-là que tu as écrit, Julien Vallenay, tu parles beaucoup de ce magazine Tactique, ouais, qui a suivi un peu toute l'expérience, c'est toute l'évolution de ce hip-hop ici à Marseille. Aujourd'hui, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots, où en est aujourd'hui la critique, où en sont, est-ce qu'il y a un Lille, est-ce qu'il y a un magazine, une revue qui suit un peu, où en est la critique nationale? Il y a ce rôle aussi de la critique, où est-ce qu'elle en est pour vous?
Bah, en tout cas, sur Marseille, il y a des activistes de la presse. On peut en citer quelques-uns, que ce soit Faz sur Grenouille, Sam et Sam aussi, qui voilà, pour le coup, font un gros boulot auprès de l'Underground.
Sur Radio Galère.
Sur Radio Galère, ouais. Ou JF, un mec qui a un site qui s'appelle Basement Session, qui vraiment suit les trucs de près. Donc, il existe, mais c'est aussi lié, tu vois, au développement de certains outils. L'Internet a permis aussi à beaucoup de gens de développer des initiatives en termes de journalistes, de critiques, etc. Donc, il y a des gens qui suivent, il y a des vrais passionnés. Donc, ouais, ça continue. Après, sur la presse papier, l'équivalent de Tactique, j'ai pas l'impression que ça existe vraiment aujourd'hui sur Marseille, en tout cas avec cet angle hip-hop. Mais après, c'est peut-être lié aussi à une époque où le hip-hop marseillais était de toute façon incontournable pour un journal un peu, pas underground, mais tu vois, alternatif, local, peut-être, je sais pas.
Rania, ton regard sur la critique?
Avec l'avènement d'Internet, une foule de médias hip-hop qui est née. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question des médias hip-hop, beaucoup de web magazines, toujours beaucoup d'émissions spécialisées sur les ondes de radio libres aussi, associatives, etc. Donc très riche aussi sur notre territoire, je pense au niveau national. Alors par contre, le petit bémol, jamais sans l'esprit critique justement, parce que eux-mêmes sont des acteurs du hip-hop et je leur jette pas la pierre, j'aurais tendance à le faire aussi, que le média, il est là pour faire découvrir, encourager, valoriser la production hip-hop, quelle qu'elle soit. Bon, on parle beaucoup du rap dans ces cas-là, je pense aussi. Mmh. Mais sans contradiction, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu dans une émission de radio, j'ai jamais lu... ouais, bof, bof, quoi, oui, machin, ceci, cela. Il y a les BCDR du son qui lui fait, j'aime bien lire leurs chroniques parce que c'est pas, voilà, c'est pas toujours le monde des bisounours dans les papiers de la BCDR du son, ils savent aussi dire. Mais alors après, est-ce que c'est une critique qui sait remettre en question les artistes ou pas, ou le faire avancer? Je sais pas vraiment. Pour moi, les médias sont vraiment des acteurs du hip-hop et ils font avancer, voilà, ils ont tendance à le tirer vers le haut et donc à être moins dans la contradiction, peut-être.
Rania Harar et Julien Balnet, merci à tous les deux. On se fait une petite pause musicale. Marseille avec Kenny Arcana featuring Kalash Lafro et RPZ.
Marseille et sa production, signore, essaye pas d'ignorer. Centre-ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York, ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro 1 s'appelle à jamais Luciano. Marseille, Marseille a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. J'ai ton chial toi, mais ferme-la et colle ta tête aux enseignes. Nous on rappe avec des principes, même sur le cœur avec des principes et j'insiste. Car dans ce bistrot de frères qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
Centre-ville,
quartier sud, quartier nord.
Marseille, Marseille, Marseille.
Qui a dit que le rap du sud était mort? Et si le flux était mort? Un bras centre-ville, quartier sud, quartier nord.
Marseille atterrit dans les chartes, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son spatial. C'est notre histoire qui parle d'elle-même. C'est le mec à vouloir faire du fric, mon frère, on s'est foutu dans quelle merde. Des balles envoyées pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Les MC cherchent la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça. En face d'Alger et de Gaza, de ceux que ceux qui gouvernent ignorent. Trafic et western ignoble, miracle et destin ignoble. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups. Que ceux qui viennent pour défiler ne viennent pas nous péter les couilles. Les coups, micro ouvert, j'compte rester jusqu'à plus d'heures. Chez nous même les voyous ont du respect et de la pudeur. J'suis de ceux qui borsent avec les crocs, comme Monsieur Borse avec les mots. J'traite pas avec les flûtes, avec les torses, avec les faux. J'vis de mon chargeur, vacciné et majeur. Marseillais et rageur, de ceux qui savent rimer en levant le majeur.
Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
Centre-ville,
quartier sud, quartier nord.
Marseille, 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 Marseille.
Qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. Un bras centre-ville, quartier sud, quartier nord.
Tu peux pas faire cet esprit rebelle. Pour la vie nos écrits se lèvent. À l'heure où ceux qui touchent des primes se taisent. Force ceux qui méprisent le trèfle. Dédie ce texte à la ville à part. Si t'es marginal, mise à part. Que de la ruse, elle est la capitale. Ma ville fout la haine au nord, m'attirante comme les phéromones, bouillante comme le vélodrome, mais beaucoup plus ancienne que Rome. Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire de l'indépendance vécue à travers quelques millénaires? Une longue histoire d'immigration, un autre œil sur l'horizon, subissant intimidation, orgueil et trahison. À l'époque d'Hitler ou à celle des rois tout roses, elle a toujours levé un doigt au béret au couronne. En ce moment, ça part en couille, ça parle en douille dans la zone. Comme partout, ça cartonne pour de la monnaie, tout pour les grosses structures, rien pour le mystère. La capitale de la rupture, c'est pour 2013. Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1-3,
centre-ville,
quartier sud, quartier nord.
Vous venez d'entendre un plateau radio et une discussion autour de la diffusion du hip-hop en France, enregistrée à la Renaissance de la Franchise, la salle emblématique du hip-hop à Marseille, avec Miloud Araftami, son directeur, Julien Valnet, auteur de MARS, et Rania Harar de Call 911 à Lille. À écouter ou réécouter sur le www.radiogrenouille.com.
Marseille Hip Hop 2014, état des lieux.
samedi 1er et dimanche 2 mars,
un week-end hip-hop sur les 3-8.
Plus d'infos sur le www.radiogrenouille.com.